Europe 1,
16h-18h, l'équipée sauvage.
La compétition des journalistes d'Europe 1 continue.
Oui, confinés mais motivés, découvrez leurs sujets captivants, étonnants, passionnants chaque après-midi sur Europe 1. Et pour conduire cette équipée sauvage, cette équipée confinée, ben Mathieu Noël est là, sa complice Eva Rock aussi. Place aux meilleurs moments de la semaine, petite compilation du week-end pour nous mettre de bonne humeur. Et c'est avec la comédienne et humoriste Claudia Tagbo que nous débutons les festivités. Claudia Tagbo en ligne, bien sûr, hein, confinement oblige.
Avec Claudia, c'est court mais c'est bon, m'avait expliqué notre ami commun Cadmerade. Et en effet, elle nous l'avait prouvé la dernière fois en public.
I believe I can fly. C'est bien, non?
Oh, c'est super. Claudia Tagbo, on est ravis de vous retrouver au téléphone cet après-midi. Vous êtes quasiment l'invité numéro 1 de l'équipe Essoval. Eva, parce que Claudia est venue trois fois maintenant, si on compte.
Mais cette, si on compte aujourd'hui, ça fait, et oui, ça fait déjà trois fois.
Je crois que vous êtes notre invité coup de cœur.
Vous étiez venu pour la comédie musicale Ghost, et puis après pour la pièce de théâtre de David Fonkinos, et voilà. Et on avait envie d'avoir de vos nouvelles, savoir comment se passait ce confinement pour vous.
Ça se passe bien, ça se passe bien. Je peux pas dire autre chose, ça se passe bien. On travaille autrement, mais on travaille.
Alors, on a une vague idée que ça se passe bien quand on vous entend sur les réseaux sociaux.
Je porte les gants, oui, oui. Ah, mode confinement. Ah, mode confinement. Plus de bisous, non, non, non. Prends soin des autres, oui, oui. Oh!
Claudia, combien de temps ça vous prend par jour de réfléchir aux vidéos que vous postez, tout ça? C'est vraiment vous avez plus de temps pour vous en ce moment ou au contraire vous travaillez plus que jamais presque?
Non, c'est pas réfléchi du tout. Je fais là en l'occurrence pour cette vidéo, c'est parce que j'étais sur Instagram et j'ai un artiste, donc ça fait Fally Ipupa, ouais, que j'admire beaucoup, avec qui j'ai eu à faire le jury de l'Africain Incroyable Talent, et il a posté ça. Et du coup, j'ai pris la guitare à côté de moi. En fait, à la base, c'était pour lui, pour l'envoyer, pour lui dire, moi aussi, je vais tenter. Et après, j'ai dit, mais tiens, je vais l'envoyer sur Instagram. Et il a liké lui-même. Et voilà, c'est parti comme ça.
L'humour est au rendez-vous, évidemment, avec vous, mais aussi le sport. Parce que maintenant, chaque vendredi, un rendez-vous sportif, Claudia?
Oui. Chaque vendredi, c'est un petit clin d'œil que Sarah m'a fait plaisir, Sarah Ramoun, notre championne olympique, elle m'a dit, viens, on fait ça, et j'ai dit oui, mais c'est intéressant, parce que moi-même, je le fais. Je me mets une séance de sport, une demi-heure tous les jours. Comme ça, ça me laisse le temps de manger plus, en fait, voilà. et puis après, j'ai dit, tiens, il y a des copines qui m'ont dit, c'était super ce vendredi, t'as qu'à faire ça tous les vendredis, on va rigoler comme ça, c'est un moyen aussi pour nous de nous obliger à se faire. J'ai dit, écoutez, on va instaurer ça tous les vendredis. Et puis après, j'ai tellement de potes qui sont sportifs, tellement de gens autour de moi qui savent faire, que je me dis, voilà, c'est un moyen d'être en communication avec eux et puis d'échanger avec tout le monde, quoi.
Et puis, on découvre dans cette vidéo que vous êtes une vraie sportive. Pour ceux qui ne le sauraient pas, que vous avez un passé sportif, parce que moi, j'ai tenu 5 minutes. Hein. Je le dis tout de suite,
je ne sais pas si vous avez essayé. Alors ça se voit pas, effectivement, je n'ai pas le corps de votre collègue, bien sûr, mais moi en tout cas je me dis, peu importe le corps qu'on a, l'essentiel c'est de se sentir bien et ne pas être essoufflé au bout de 10 marches, quoi.
Exactement.
Voilà. Donc je me dis ben voilà, fais tes abdos, essaye au moins, et donc voilà,
tous les vendredis
à 18h30,
voilà. Même confinée, elle reste hyper active. Claudia Tagbo reste avec nous.
16h, 18h,
l'équipe est sauvage sur Europe 1.
Écoutez, l'équipée sauvage, 2 heures pour oublier le confinement et s'évader en compagnie des meilleurs journalistes d'Europe 1 et d'un présentateur dont le côté hyperactif peut faire peur parfois à l'invité, comme Claudia Tagbo en février dernier.
Alors, ouais, mais c'est pas Friends, ça s'appelle I'll Be There For You.
Oui, bah, je sais bien, oui.
Ah. Le gars, il est schizophrène, quoi, il part tout seul.
Ouais, j'ai l'air fou, hein. Bah, je le suis un peu.
Claudia Tagbo, déjà que vous me trouviez fou avant quand je parlais à la régie, là, vous me verriez lancer les sons dans mon salon tout seul avec mon chat sur les genoux. Vous me trouveriez encore plus dingue. Merci d'être avec nous cet après-midi, Claudia. On parlait de vos multiples activités en ce moment, puisque vous continuez de divertir les Français et de nous faire du bien via les réseaux sociaux, par l'humour, bien sûr, et par le sport le vendredi à 18h30. Et là, j'entendais, excusez-moi de vous immiscer comme ça, de m'immiscer dans votre vie privée, mais j'entendais que vous avez l'air d'être aussi institutrice maintenant, j'ai l'impression.
Oui, oui, parce que ce qui s'est passé juste avant le confinement, en fait, comme on a arrêté notre pièce un peu plus tôt, avant qu'on nous dise confinement, j'avais dit, bon, ben, je vais prendre mon neveu pour aller rejoindre mon amoureux, qui est du ouais. côté de la baie Saint-Michel. Et donc, voilà, je suis venue en week-end, en fait. On nous a dit confinement. Donc, on est coincé là avec un bout de chou qui a... Isaac, qui a 4 t-shirts que je dois laver tous les jours. Tout d'un coup, je réapprends, je me dis, ok, il y a on a vraiment des héros en blouse blanche qui sont devant, mais j'ai dit, il y en a d'autres, en fait, qu'on néglige, ce sont les instituteurs, les profs, et j'ai dit, les parents. Chaque parent que je verrai dans la rue, je lui ferai un grand sourire, parce que j'ai beau le saouler, le droguer, je rigole, c'est une blague. Voilà. Il est debout à 8 heures, le gars, 8 heures précises. On va faire le petit déjeuner?
Ah oui, ça déconne pas les enfants. Hein. Dites-moi Claudia, ça fait du bien de vous entendre. Vous m'avez l'air d'avoir une pêche, mais exceptionnelle. Il y a des gens qui vivent le confinement moins bien, qui dépriment chez eux. Vous n'êtes pas du tout en manque, par exemple en manque du public. Enfin, vous êtes une artiste tellement communicative sur scène. Vous arrivez à vous épanouir dans cette vie confinée, ou en tout cas à être heureuse malgré tout, malgré le manque du public.
Mais en fait, je me dis, ce qui est sûr, c'est que, bon, moi, je me suis placée du côté de me dire que je veux être une militante de la bonne humeur. Ça ne veut pas dire que je ne prends pas conscience de ce qui se passe là. Ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné, il faut se dire que ce qu'on a vécu il y a un mois, la vie que nous avions il y a quelques mois, là, il faut se dire, ça y est, c'est autre chose qui va arriver. Vraiment, vraiment. Hein. On ne peut pas sortir de ce confinement en se disant, voilà, je vais reprendre ma petite vie d'avant, c'est impossible, les choses ont bougé, les dés sont jetés, les trucs se sont décalés. Donc après, effectivement, moi je suis là, j'ai eu cette chance, vraiment, je dis, c'est de la chance d'avoir eu ce petit qui est là, c'est mon neveu, je l'adore. Et tout d'un coup, ça me met dans un rythme qui m'impose des choses. Et puis à un moment donné, l'enfant, sa phrase, c'est dès que je lui dis un truc, il me dit. J'ai dit non, il dit oui, confinement. Voilà. Donc, oui, parce que tout est confiné. Mais là, c'est... Non, mais confinement. Le chocolat, c'est confinement à partir de 16h. D'accord, c'est fini. Et en fait, tout ça pour vous dire que je le vis bien parce que, un, j'ai pas le choix. Parce que j'ai décidé que c'était comme ça pour moi, j'allais faire ça. Et de deux, je pense vraiment, parce que quand je me mets sur ce balcon ou quand je me mets à applaudir toutes ces personnes qui sont en train de se battre en ce moment au front, je me dis, t'as pas le droit de faire la gueule en fait. T'es là, t'es dans un lieu qui est plutôt agréable, t'as un petit bout de chou avec toi, qui te fait rire, à qui tu fais rire. Il y a vraiment un échange. La seule personne éventuellement, peut-être qui va nous dire à la fin... Cassez-vous, c'est peut-être mon doudou, mais je crois pas.
Claudia, dites-moi, vous parlez d'un avant et d'un après cette crise, et ça paraît assez juste, mais comment vous imaginez l'après ? Vous dites que rien ne sera jamais pareil, mais en quoi la vie sera différente après ?
Mais ça sera, j'ai envie de dire, ça sera différent parce que on peut pas revenir à dire bon allez, j'ai perdu mon truc, je vais revenir économiquement. Économiquement, les choses vont bouger. Vous voyez, notre façon de nous percevoir, de percevoir l'autre va bouger. Je sais pas si demain on va avoir quelqu'un qui va venir nous renifler dans la nuque comme on fait la queue à la boulangerie. On va avoir conscience. Oui. Mais il y a tout ça qui va changer, vous voyez ce que je veux dire? Alors après, il y a les gens qui étaient flippés comme moi, qui à la fin de mes spectacles distribuaient des gels antibactériens. Mais tout ça, blague à part, c'est pour dire que là, ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est on rigole, on communique autrement. J'ai vraiment envie de dire que ce moment-là, ça devrait nous permettre de nous recentrer, de nous unifier dans notre tête et notre corps, vraiment. Je crois que ça, c'est important. Il faut aller vers ce monde qu'on a toujours voulu avoir. Enfin, peut-être que je suis un peu... dans un truc de béni oui, je sais pas, mais en tout cas, ce monde qu'on a voulu, je pense que c'est maintenant qu'il faut se dire que, ok, on nous donne la possibilité, parce que, voilà, après moi je suis croyante, on nous donne la possibilité de le faire, essayons de le faire.
Mais est-ce que vous, Claudia, est-ce que vous comptez changer quelque chose dans votre vie? Au sens, je sais pas, est-ce que, par exemple, ce moment, cette parenthèse qu'on vit là, qui est assez terrible, vous donne envie de revoir vos priorités dans la vie, je sais pas, par exemple?
Ah oui, ça, je sais pas, là, on est en une émission de radio comme ça, vous dire ça sur 5 minutes, mais oui, il y a des choses qui ont déjà, je pense, des choses qui sont décalées chez moi, et en tout cas, il y a un truc qui, je dis ça un peu avec un truc dans la gorge, mais c'est juste, vous savez que vous êtes là, et pour vous dire, est-ce que je suis à ma place? Voilà, les gens vont dire, oh là là, mais est-ce que je suis à ma place? Et d'un coup, je me dis, oui. Oui, je suis à ma place. Oui, j'aime bien quand je fais rire les gens. Oui, j'aime bien. Jusque-là, vous êtes là, vous dites, tu ne sers à rien. Mais non, en fait, si je peux donner un petit sourire, oui, voilà mon petit. Et là, je dis oui, meuf, tu t'es pas trompée, tu es à ta place. Voilà.
Bah c'est hyper important de savoir être à sa place, hein, de l'avoir trouvé.
Oui, ça, et oui. Et je trouve que dans ces moments-là, c'est la vraie question de se dire est-ce que je suis à ma place, qu'est-ce que je peux faire, est-ce que ce serait pas le moment de vouloir aller vers la femme que j'ai envie d'être ou voilà. Et oui, mm-hmm. Je suis à ma place. Et ça, je trouve que bon, ben c'est un peu grave d'en arriver là à ce moment-là, mais à l'âge qu'on a, peut-être, je sais pas, mais tout est bon à prendre en tout cas. Voilà.
Votre pièce que vous jouiez avec Kadmerad et Lionel Abelansky s'appelait Amis. Est-ce que les relations avec vos amis ont changé avec le confinement ? Est-ce que, je ne sais pas, est-ce que vous êtes du genre à passer toutes les journées au téléphone avec eux ou au contraire, vous avez pris vos distances parce que vous êtes confinés ? Comment vous vivez les relations amicales en confinement ?
Alors, j'ai des rendez-vous téléphoniques. J'ai des rendez-vous téléphoniques, genre le dimanche, j'ai des rendez-vous téléphoniques avec ceux qui sont beaucoup plus proches de moi, c'est-à-dire ma sœur, ma mère. On va se donner rendez-vous à 18h, donc on les fait tous ensemble, parce que vu que j'ai le bout de chou, donc tout le monde demande s'il va bien. Personne ne s'inquiète pour moi, en fait, tout le monde m'appelle pour le bout de chou. Donc, dans les rendez-vous téléphoniques, ils vont commencer à partir de 18h30, 19h, à 20h30, c'est fini. On a eu tout le monde et ça y est. Et donc oui, j'ai des rendez-vous avec mes amis, on échange beaucoup de textos et puis vraiment sur les réseaux, j'ai des copains, on s'échange comme ça. Mais oui, et puis moi en fait, j'ai envie de dire, mes copains, je les voyais beaucoup, mes amis en tout cas, je les voyais physiquement, donc là c'est vrai que ça commence à nous manquer, mais ça va, ça se passe bien.
Elle est ce shot quotidien de bonne humeur qui vous permet de garder le moral après 28 jours de confinement. Vous la retrouvez sur les réseaux sociaux et le vendredi, on le rappelle désormais, à 18h30 pour une séance de sport.
Ouais, très bien.
Merci
ça.
Beaucoup Claudia Tagbo d'avoir été en ligne avec nous cet après-midi.
C'est Move Your Body, donc des fois peut-être qu'il peut y avoir de la danse, peut-être, je ne sais pas.
Ah ouais, mais c'est d'accord.
Move Your Body, essayons d'avoir le moins de distance possible avec le frigo et les placards.
Europe 1, 16h-18h,
l'équipe est sauvage.
Et la suite de l'équipe est sauvage, c'est dans un instant sur Europe 1 avec Mathieu Noël et Frédéric Michel, plein feu sur un jardin extraordinaire.
L'équipe est sauvage sur Europe 1,
16h-18h.
Avec Mathieu Noël et sa compagne de jeu, Eva Rock, et avec à présent Frédéric Michel qui a voulu mettre un coup de projecteur sur un jardin inaccessible réservé aux scientifiques.
Vous écoutez l'équipée sauvage, la grande compète des journalistes d'Europe 1 qui chaque après-midi, même confinés, continue de se surpasser au service de votre culture générale. Or, saviez-vous que le plus beau jardin botanique au monde est en France ?
Mais non.
Mais si.
Ah
et
bon
que ce jardin, Eva, est à côté de votre Nice natale.
Mais non.
Mais re-si, Eva. C'est Frédéric Michel, notre correspondant sur la Côte d'Azur, qui va vous le faire découvrir en espérant que ce qui sera le deuxième sujet sur les plantes de l'histoire de notre émission soit un peu moins tendancieux que celui d'Anne Le Gall en janvier dernier, où on avait clairement senti qu'elle ne s'était pas contentée de regarder.
Voter pour les plantes, c'est une bonne façon de ne pas se planter.
Frédéric Michel, j'espère que vous aurez poussé l'investigation un peu moins loin que votre rival niveau plantes. C'est donc un jardin botanique un peu particulier que vous nous proposez de découvrir cet après-midi.
Effectivement, un jardin situé entre Nice et Monaco, à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Et rares sont les privilégiés qui ont pu visiter le parc botanique de la Villa des Cèdres. Mais ensemble, je vous propose d'arpenter les jardins et serres de cet endroit d'une beauté exceptionnel. Alors, on est au bord de la Méditerranée. La richesse des collections de cette ancienne propriété du roi des Belges, Léopold II, on la doit à un amoureux de botanique, Julien Marnier l'Apostole. Quand il hérite du domaine en 1928, il va faire venir du monde entier différentes espèces de plantes, de fleurs et d'arbres, mais aussi, et ça va vous intéresser, Mathieu et Eva, une sélection d'agrumes. Pourquoi ?
Ah, pas mal. D'agrumes, parce que c'est l'endroit.
Ça, on va pour les consommer comme ça, mais peut-être
mais
pour en faire des alcools.
Marnier l'Apostole, exactement.
Ah oui.
Pour ces alcools, vous connaissez tous la fameuse liqueur Grand Marnier, liqueur
à base
de cognac et d'orange amère qui se déguste avec modération, en cocktail, ou que l'on flambe sur des crêpes, ou dont on imbibe nos desserts.
C'est ça.
Très friand, Eva.
Alors, j'ai cru que vous alliez dire que vous en êtes très imbibé.
Ah non, oui, arrêtez, enfin.
Naturaliste et botaniste reconnu, Julien aime le contact des plantes, mais aussi des animaux. Il peuple son domaine de singes, de guépards, d'oiseaux exotiques en cage et en liberté, comme des cacatoès, hein, des perroquets que l'on peut encore entendre quand on approche le domaine. Quand on approche, car à part des botanistes ou quelques docteurs en pharmacie, rares ont été les visiteurs. Pierre Dévolui a écrit un livre intitulé « Saint-Jean-Cap-Ferrat » aux éditions Giletta sur l'histoire de cette maison des cèdres et de son jardin extraordinaire.
Il possède 14 000 espèces tropicales et subtropicales de plantes, ce qui représente trois fois à peu près la biodiversité de toute la France et 5% de la biodiversité du monde entier. Ces plantes ne viennent jamais de graines. Elles ont été toutes ramassées avec leurs racines et donc elles n'ont jamais subi de transformation d'aucune sorte. Si bien qu'aujourd'hui encore, il y a des laboratoires pharmacologiques, par exemple, qui viennent prélever des molécules de certaines de ces plantes pour faire des médicaments.
C'est un jardin.
Mais dites-moi, Frédéric. Oui, Eva, faites-vous plaisir en chantant. Mais pour s'occuper d'un tel pas, Frédéric, il faut une armée.
Oui, ils étaient une trentaine de jardiniers hein, du temps des Marniel Apostoles jusqu'en 2016. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 12 hein, pour s'occuper de ce parc, racheté il y a peu. Et il y a du travail hein, entre les 25 serres chauffées avec la... 25 ouais. serres chauffées, en effet, hein, ça, de quoi vous faire un petit salon. Avec la plus grande collection au monde hein, de succulentes, des cactus à vous en piquer, des palmiers, des oliviers. Mais le parc compte aussi une forêt tropicale de 6 hectares où vous pouvez vous perdre, Eva.
Ah bah oui, je veux bien vous croire, oui.
Des bambous à vous donner le vertige, des bassins avec des lotus, des papyrus et un carré d'agrumes ou citron, pamplemousse, orange, mandarine et j'en passe pousse grâce à cet exceptionnel climat méditerranéen que vous connaissez si bien. Alors certains estiment cependant que le parc est en danger, même si le milliardaire ukrainien qui a racheté le domaine promet de s'en occuper. Il faut dire que le parc est classé au patrimoine culturel français et il a donc une obligation. Mais jusqu'au rachat il y a quelques mois, les 14 hectares ont été délaissés. Des voix s'élèvent à présent pour demander, voilà, pour demander un accès au public. On pourrait faire partie de ces gens-là. Hein. On va lancer une grande pétition. Un peu sur le modèle hein, de la maison de Jean Cocteau, située à quelques kilomètres de là, et dont le propriétaire a obligation de faire visiter notamment le salon entièrement dessiné par l'artiste. Alors peut-être que je vous inviterai bientôt, Mathieu et Eva, pour une visite du Parc des Cèdres. Et sinon, il y a Internet. Vous trouverez de nombreuses photos pour une balade virtuel.
C'est un
extraordinaire.
Merci beaucoup Frédéric Michel pour cette belle balade, une chronique qui aurait eu le mérite de nous faire rêver un peu. Au fait, Eva, comment se porte votre petit jardin ?
J'ai plus de poils, je me suis épilée. C'est con.
Mais non, j'entendais Mathieu, votre petit jardin dans le sud, chez vos parents. Mathieu. Bref, passons.
16h, 18h sur Europe 1.
L'équipée sauvage.
Apprendre et se détendre avec Mathieu Noël et sa complice Eva Rock. Et la compétition qui continue avec maintenant Hélène Cole qui a choisi de nous parler cette semaine d'une start-up dont le chiffre d'affaire a décollé grâce au coronavirus.
Comprendre le monde sans jamais oublier d'en rire, même retranché chacun chez nous, vous écoutez l'équipée confinée, volume 30. La bataille explosive qui oppose chaque après-midi les meilleurs journalistes d'Europe 1, des journalistes qui, ces derniers temps, confinement oblige, ont dû délaisser les sujets nobles comme la politique, l'économie, pour aller à l'essentiel, le PQ. La ressource la plus précieuse après l'or à l'heure actuelle. Pour nous en parler, une journaliste sans scrupules qui, pour l'emporter dans cette compétition, ne recule devant aucun stratagème. Quand elle donne rendez-vous à ses fans sur les réseaux sociaux, elle laisse toujours planer un doute en écrivant « à tout à l'heure ».
Peut-être en string, ça, on ne sait pas.
Bonjour, Fräulein Cole.
Bonjour, Mathieu Noël.
Vous êtes Hélène, notre correspondante à Berlin, pays décidément en pointe à tout point de vue. L'ingénierie médicale, les voitures de sport et désormais... les douchettes portatives pour se rincer. La petite fleur, comme dirait Anissé.
Oui, face à cette crise du coronavirus, l'Allemagne a le calme souverain d'Angela Merkel. 500 milliards d'euros dans ses caisses, des tests par centaines de milliers et donc effectivement la douchette à popotin. C'est très sérieux. C'est une start-up berlinoise qui a mis au point ce système alternatif au papier toilette. Eh bien, elle a vu ses ventes s'envoler depuis le début de l'épidémie. Chiffre d'affaires multiplié par 10. Parce que face à la crainte d'une pénurie de papier toilette, les Allemands se sont jetés sur cette petite gourde souple équipée d'une douchette. Alors le principe est assez simple, on remplit cette flasque d'eau tiède et puis quand on a fini ses petites affaires, on appuie sur la gourde et ça envoie un jet d'eau bien ciblé qui vous nettoie.
Bien ciblé. Est-ce que c'est vraiment bien ciblé? Parce que sinon ça peut vraiment mener à du sacré débordement.
Écoutez, ça c'est votre problème. Le produit à la base c'est censé vous nettoyer tout en douceur. Alors ça s'appelle Happy Po. Alors happy comme joyeux hein, et heureux en anglais. Et puis po comme le postérieur ou le popotin en allemand. Donc le nom du produit était tout trouvé, c'est le joyeux derrière, le Happy Po, made in Germany.
C'est génial.
Alors Hélène, franchement, comment en vient-on à produire ce genre d'objet? Il faut avoir quand même de l'imagination.
Alors en fait, l'objet existe depuis 4 ans et il est né dans la tête d'un ingénieur de la région de Stuttgart qui bossait à ce moment-là dans la filière de la vis et des chevilles, donc on est assez loin de notre petite affaire. Il était chez le leader mondial du secteur même et Oliver Elsou, c'est son nom, était amené à beaucoup voyager, et notamment en Asie. Et là-bas, vous le savez peut-être, le papier toilette, ce n'est pas la norme. Au Japon ou en Inde, hein, on préfère se laver les fesses à l'eau. Et donc, notre ingénieur allemand se dit « Ah, il y a peut-être un coup à faire ici en Allemagne. » Alors, il pense en fait avant tout aux touristes, aux gens qui font du trek, les randonneurs, etc. Il se dit « Ça, c'est un gros marché. Les Allemands aiment bien faire de la rando. » Puis, ça colle aussi aux attentes du mouvement environnemental du zéro déchet, notamment. Pas d'emballage, pas de papier qui traîne, pas d'arbres sacrifiés pour nos chers petits popotins. Parce qu'il faut savoir quand même que la consommation de PQ en Allemagne, c'est 12 kilos par personne et par an. Et en fait, son produit marche bien aussi dans les maternités, dans les maisons de naissance, etc., pour l'hygiène intime des femmes. Mais bon, on restait quand même jusqu'à présent sur un truc de niche.
Sauf que le coronavirus a changé la donne.
Oui, parce que tout d'un coup, le PQ a pris la une, en fait. Hein. On ne parlait plus que de ça fin mars en Allemagne. Alors, en mars, même dès le début du mois. Alors, pénurie, pas pénurie, faut stocker, faut pas stocker. Est-ce que les Polonais vont pouvoir nous en livrer, etc. Donc, fin du tabou autour du papier toilette. Et énorme coup de pouce du destin pour notre start-up qui avait jusqu'à présent plutôt du mal à communiquer autour de son produit. Et figurez-vous que le Happy Po a même fait l'objet d'une vidéo d'une des influenceuses les plus en vogue du moment ici en Allemagne sur les réseaux sociaux. Alors, normalement, elle chronique ses séjours à Los Angeles, bien là elle s'est repliée sur une vidéo vie pratique depuis sa salle de bain et visiblement elle est assez convaincue par ce produit qui coûte environ 20 euros,
ah oui, c'est
réutilisable
cher.
Pendant des années, ouais mais vous le réutilisez
ah oui, non, c'est pas cher du quasiment. Tout, ouais, c'est bien ouais.
Donc en Allemagne on en trouve au supermarché, en France il faut passer par internet pour en trouver.
Et j'ai un message à l'instant de Anne Le Gall, notre spécialiste environnement, qui me dit qu'elle utilise le joyau derrière depuis déjà 2 ans. Elle fait partie des pionnières qui ont testé la chose. Enfin, ça ne m'étonne pas d'elle. C'est écolo. Merci beaucoup, Hélène Cole, pour ce sujet très propre. Et je vous dis donc à la prochaine fois.
Peut-être en string, ça, on ne sait pas.
Si le temps le permet, Hélène, on croise les doigts. On croise les doigts.
Europe 1, 16h-18h, l'équipée sauvage.
Que le Festival de Cannes ne pourra plus se tenir en juillet, les organisateurs continuent à réfléchir à une sortie de secours pour que le festival ait lieu. Et bien on fait le point avec le monsieur cinéma d'Europe 1, Mathieu Charrier. Quel scénario pour Cannes 2020? C'est dans les meilleurs moments de l'équipée sauvage, les meilleurs moments de la semaine avec Mathieu Noël, Eva Rock et nos journalistes compétiteurs, tous confinés.
Même confinés, les journalistes d'Europe 1 continuent de se défier. Écoutez, l'équipée sauvage, 2 heures d'un joyeux pugilat entre les mercenaires de l'info et le dernier en lice n'est pas le moins pugnace, même s'il a ces derniers temps, surtout dans la matinale week-end, quelques légers retards à l'allumage, vous l'avez entendu. Mais contrairement au petit montage pernicieux que j'ai diffusé tout à l'heure, attention, je tiens quand même à rétablir la vérité, parfois Mathieu Charrier arrive quand même à terminer ses phrases.
5, 4, 3, 2, 1, 0. C'est une BD bourrée d'humour noir, côté graphisme, c'est un crayonné très fin, noir et blanc, des petites cases qui s'enchaînent, on est emporté par le tempo du dessin, c'est chez ça. Et la édition.
Yes.
Ah putain.
Dans quel état allons-nous le retrouver cet après-midi? Je ne vous cache pas, chers auditeurs, que c'est un saut dans l'inconnu. La forme, Mathieu Charrier?
Bah oui.
C'est un petit bain, oui. Quand on pense, si les auditeurs savaient la taille de votre terrasse, vous devez passer des jolies journées en ce moment, en plein soleil, mon salaud.
Possible. Bon, alors, vous voulez que je vous parle de quelque chose de sérieux?
Mais oui, mais
vous avez noté qu'il ne dément pas. Vous nous parlez, parce que comme vous êtes au soleil sur votre terrasse, vous pensez à ça, vous pensez à la croisette, au Festival de Cannes, et vous vous dites, ben mince, cette année, je ne pourrais pas aller tout frais payé sur la croisette.
Exactement. Qui dit pas de festival jusqu'à au moins mi-juillet dit effectivement pas de festival de Cannes qui devait débuter normalement, vous le savez, mi-mai, comme d'habitude, d'abord reporté à fin juin, puis finalement donc se communiquer alambiqué mardi. Il apparaît désormais difficile de penser que le Festival de Cannes puisse être organisé cette année sous sa forme initiale, ça c'est le moins qu'on puisse dire. En résumé, les stars et les paillettes, on oublie, mais les organisateurs estiment que le festival, là encore je les recite, doit continuer à étudier l'ensemble des éventualités permettant d'accompagner l'année cinéma en faisant exister les films de Cannes 2020 d'une manière ou d'une autre. Vous n'y comprenez rien, je suis là pour ça.
Quelles sont les vraies pistes sur la table, Mathieu?
Alors, il y en a plusieurs. D'abord, vous savez qu'à Cannes, il y a le festival, mais il y a aussi toutes les sélections parallèles qui sont prestigieuses également. La quinzaine des réalisateurs, la semaine de la critique. Eux ont aussi officialisé l'annulation des festivals en tant que tels, mais ils laissent entendre qu'ils envisagent d'organiser leur sélection à Paris, à la rentrée, peut-être à l'automne également. Ça veut dire diffuser les films dans les salles parisiennes, pour la presse, sans doute pour ces festivaliers. Décerner aussi un palmarès qui permet bien sûr une couverture médiatique. Et puis surtout, vous savez, des beaux logos sur les affiches au moment des sorties des films, attirant ensuite les spectateurs dans les salles. Donc Cannes, la sélection officielle, pourrait se greffer sur cette organisation. Mais c'est vrai que ça veut dire diffuser des films dans des salles, pas de tapis rouge, pas de paillettes. Et Cannes, c'est aussi ça, ça perdrait un petit peu de sa superbe.
Et oui, comment ils vont faire pour maintenir le prestige dans ces conditions?
Alors, il y a une autre piste possible qu'évoque Thierry Frémaux ce matin dans le Figaro, organiser Cannes conjointement avec la Mostra de Venise. Vous savez, ça c'est tout début septembre. Alors, Venise se déroulerait à Venise, Cannes, il dit on pourrait monter les marches avec des masques sur le visage, c'est évidemment un trait d'humour, mais ça montre quand même l'image. Ça voudrait dire que les deux festivals sans doute bosseraient main dans la main. Alors, pourquoi pas avoir une sélection conjointe, chacun sa sélection, pourquoi pas aussi, mais ça serait compliqué parce que vous avez des journalistes qui devraient être des deux côtés,
oui, comment ils vont faire, ouais.
Vous avez, ben ouais, c'est ça, vous avez des films qui seraient projetés d'un côté, peut-être de l'autre, des stars, on ne sait même pas si elles pourront être là, parce que je vous rappelle quand même que l'espace Schengen est fermé, donc pour faire venir les Américains, ça va être compliqué. Donc voilà, et puis c'est quand même deux festivals qui sont rivaux, entre guillemets, on a fait beaucoup le sujet ces dernières années, avec Venise qui essaie de retrouver sa superbe, qui essaie de prendre la place de Cannes, donc c'est pas certain qu'ils y arrivent. Et puis, il y a aussi, il ne faut pas se leurrer, Cannes, c'est aussi les stars qui font qu'il y a un grand rayonnement, que c'est le troisième événement le plus médiatisé au monde après les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde de foot.
Ah oui.
Et je peux vous garantir que, connaissant les Américains comme on les connaît, ça m'étonnerait qu'ils mettent le pied en Europe avant plusieurs mois, qu'ils prennent le risque de venir choper le coronavirus. Donc, c'est vrai que ça s'annonce quand même compliqué.
Et question bête, mais pourquoi ne pas faire un festival en ligne, en projetant les films sur des plateformes sécurisées,
par
exemple.
Ce qu'ils ont fait pour les festivals d'animation, de films d'animation qui ont été annulés récemment, là, d'ailleurs.
Annecy, notamment, ouais. Effectivement, vous avez raison, qui va faire ça. Alors, Thierry Frémaux, le délégué de Cannes, a clairement dit qu'il était opposé. Pourquoi ? D'abord parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'il a lancé depuis quelques années une croisade contre Netflix,
vrai,
en expliquant qu'il ne mettrait pas en compétition avec Cannes des films qui ne sortent pas sur des écrans de cinéma. Donc c'est compliqué ensuite de dire qu'on va juger les films en les regardant en dehors de le cinéma. Et puis il y a quand même la problématique, il ne faut pas l'oublier, du piratage. Comment être certain si ces films sont diffusés en ligne ? Je vous rappelle que Cannes projette des films qui seront sortis dans les salles des mois après, souvent. Mmh. Donc si vous les diffusez en ligne, comment être sûr qu'ils ne vont pas être piratés et donc disponibles sur Internet avant leur sortie en salle ? C'est hyper compliqué. En revanche, ce qui est vrai, c'est, vous savez, à Cannes, il y a ce qu'on appelle le marché du film, c'est-à-dire des producteurs, des distributeurs du monde entier qui s'y retrouvent pour acheter, pour vendre des films. Et ça, en revanche, ça va se passer sur Internet. Ça a aussi été officialisé en juin. Là, c'est concret. Mais ça ne concerne pas, évidemment, le public et la presse.
Dernière question, Mathieu. Est-ce que c'est déjà arrivé que Cannes soit annulé, purement et simplement ?
Alors, oui et non. Non, en fait, le tout premier festival de Cannes, qui devait avoir lieu en 1939, il avait été annulé au dernier moment, évidemment, en raison de la guerre. À l'époque, d'ailleurs, c'était en septembre. C'est amusant de remarquer le parallèle, vous voyez, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pourrait faire Cannes en septembre, à l'époque, c'était en septembre.
Ah, puis il y a eu l'histoire de 68 aussi,
Mais 68, non mais 68, on dit souvent qu'il a été annulé, il n'a pas été annulé, il a été interrompu, c'est-à-dire qu'il a commencé, voilà, il y avait la colère à Paris, les révoltes, les usines occupées, sur le tapis rouge de la croisette, vous aviez Orson Welles, Louis Malle, Roman Polanski, Sharon Tate qui étaient là, bon, ça l'a foutu un peu mal, le 18 mai, Claude Berry, François Truffaut, Jean-Luc Godard, montée de grève à Cannes, ils occupent les salles, il y a des bousculades et effectivement la compétition s'arrête 6 jours plus tôt que prévu. Mais le festival avait quand même été lancé. Donc hormis cet événement-là, c'est une première que le festival, depuis qu'il existe officiellement, si on laisse 1939 de côté, c'est une première que le festival ne se tienne pas aux dates prévues. C'est quand même, je trouve, symboliquement très fort.
Eh bien, merci Mathieu Charry pour cette chronique extrêmement complète et extrêmement bien dite surtout. Et c'était pas gagné quand on sait votre forme ces derniers jours.
Une idée
pour votre prochain thème de chronique.
Le communisme comme agent de la décadence française.
Sympa.
Ah, sympa, ça c'est bien dans l'actu ça. Merci.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
2 heures de bonne humeur et de découverte avec Mathieu Noël. C'est tous les après-midi sur Europe 1. Place maintenant à notre quiz, Best of Quiz. Le 6 mars dernier, Eva Rock était opposée à MC Solar. Et oui, allez, un vrai faux. Rap ou pas rap ?
Chers auditeurs, c'est l'heure pour moi d'un message personnel à celle qui me supporte au quotidien et que je charrie souvent sur le fait qu'elle n'a plus le temps désormais de s'épiler. J'aimerais vous dire, Eva...
Toi, je vous aime.
N'importe quoi.
Toi, je vous aime. Réputation de femme facile.
Oh mon Dieu.
Eva est une insulte à votre style. Même si vous n'êtes pas très difficile et que vous n'avez pas les reins fragiles. Oh Eva.
Voilà, je tenais à vous dire mon amour. Juste avant de vous... Ouais, quand j'ai pas de son, je suis obligé d'improviser, c'est pas terrible. Je tenais à vous dire mon amour, juste avant de vous balancer le best-of du quiz qui vous opposait jadis à l'invité. Ça fait passer la pilule.
Ouais, à peu près.
Alors MC Solar, pour le duel qui vous oppose à Eva, nous allons jouer, c'est très simple, à rap ou pas rap. Je vous donne des phrases, vous me dites si, selon vous, elles sont issues de performances rap ou pas du tout. Oh, une bonne réponse, un point, c'est parti. Eva Rock, si je vous dis, je veux bien vivre avec toi, mais séparément, je veux bien avoir un enfant qui te ressemble, mais pas de toi. Ça vient d'un rap ?
Non, c'est pas rap.
Vous semblez bien sûr de vous ?
Ben oui, parce que il me semble même me reconnaître la chanson. C'est alors, une chanson, mais c'est pas du rap.
C'est une chanson ?
Non, c'est développée. Je suis même pas sûr que ça soit une chanson.
Mais qu'est-ce que c'est alors ?
Non, je le connais, ce dialogue. Mais non, c'est pas du rap.
C'est pas du rap. Vous êtes sûr de votre réponse ?
Oui.
Oui, vous êtes sûr ? Ouais. On écoute la réponse.
Je veux bien vivre avec toi, mais séparément. Je veux bien avoir un enfant qui te ressemble, mais pas de toi.
Pas rap, vous avez reconnu Didier Bourdon dans un sketch des Inconnus.
Voilà, c'est ça.
Effectivement, bien joué. C'était une chanson dans l'esprit d'Eva.
Voilà. Dans le mien aussi, je pensais à François Feldman.
Mais oui, moi aussi, à Phil Barnet.
Qui était un des premiers rappeurs d'ailleurs dans les productions, du moins bien avant que.
Ah oui, c'est vrai.
C'est vrai, Phil Barnet, il avait
les deux. Les deux, ouais.
Alors, MC Solar, si je vous dis, ris, tout le monde rira avec toi, pleure et tu seras tout seul à pleurer. Ça vient d'un rap ou pas ?
Oui, c'est le genre de parole qu'on peut trouver dans un titre de rap. Oui,
oui, pas très inspiré. C'est ça que vous voulez dire, MC Solar ?
C'est des consignes de vie, des maximes potentielles.
C'est ça, on écoute.
Dis, ris, tout le monde rira avec toi, pleure. Et tu seras tout seul à pleurer, t'imaginais quoi ?
Voilà, c'était Hugo TSR, le titre c'est Old Boy.
Paris 18e.
Ah, vous le connaissez ?
Oh, mais moi je connais tout. Hein.
Ah, vous connaissez tout ? Vous êtes un. Vous êtes le parrain du rap français, vous écoutez tout ce qui se fait, vous donnez des conseils aux jeunes.
Non, pas le parrain, le grand-parent.
le grand-parrain. Eva Rock, si je vous dis.
Oui.
Je suis né avec une barbe, je faisais tellement vieux que les médecins pensaient que c'était moi le père. Ça vient d'un rap ? Pas d'un rap.
Ça fait bizarre comme phrase à.
Ah, bah ça peut être. Effectivement, ça peut être un élément pour vous de réflexion. Est-ce que vous arrivez à le rapper ?
Non, mais alors justement, vous êtes assez vicieux pour. Je veux dire rap.
Non, quelle est maline ! C'est une mauvaise réponse !
Pas rap ! Je suis né avec une barbe. Je faisais tellement vieux que les médecins ils pensaient que c'était moi le père.
C'était l'humoriste Redouane Arjane. MC Solar, si je vous dis, attention, cette question va vous départager. Chez les femmes, quand elles désirent quelqu'un, elles feignent l'indifférence. Enfin, je parle des jolies femmes. Rap ou pas rap ?
Alors, j'essaie de le faire en rappant, pour voir.
Ah oui,
ouais.
Allez-y.
Chez les femmes, quand elles désirent quelqu'un, elles feignent l'indifférence. Non, pas rap.
Ah, ben c'est à ça qu'on reconnaît un vrai professionnel, et non !
Il y a quelque chose que j'ai jamais compris, en fait, chez les femmes, c'est que quand elles désirent quelqu'un, elles feignent l'indifférence. Enfin, je parle des jolies femmes.
C'était.
C'est qui ? J'ai pas reconnu la voix.
C'était pas un rappeur en tout cas, c'était Gaspard Proust, Eva.
Ah, c'est Gaspard Proust.
Gaspard Proust, et on me signale en régie, où ils sont encore plus vicieux que moi, que cette dernière question valait 2 points. C'était une question bonus, et donc c'est MC Solar qui remporte notre quiz. Encore une défaite. Pour cette pauvre Eva Rock.
Elle fait que de perdre.
Oui,
mais il le fait exprès, vous inquiétez pas.
C'est vrai.
Il fait tout pour que je perde.
MC Solar, qu'est-ce que vous avez fait pendant ces 10 ans où on vous a perdu du ? Vous n'avez pas perdu contact avec la musique ?
Non. Il y a la musique, faire des concerts. Ouais, bon, j'en ai fait quelques-uns, quoi. Mais qu'est-ce que je fais ? J'ai pris du recul. Tu sais, mon livre de chevet, ça s'appelle... travailler 2 heures par jour.
Ah putain, ça c'est bien ça. Vous allez me le passer.
Et puis à un moment donné, voyant que je travaillais beaucoup, je me suis dit, je vais suivre les conseils du livre. C'est le droit à la paresse. Mais me rendant compte que j'étais vraiment, vraiment, vraiment paresseux, parce que j'y crois en tant que bon élève, à un moment donné, j'ai décidé d'oublier ce livre. Et comment ça s'appelle ? Le ministère du temps libre. Mmh. Et ben, je me suis dit, mieux vaut retourner dans un ministère du travail. Il y a une cohérence.
Oui. Il y a une cohérence. Il y a une cohérence, mais pour se permettre ça, on va quand même le dire, c'est un luxe. C'est-à-dire que vous avez dû en vendre des albums pour pouvoir vous arrêter pendant 10 ans. Et les droits SACEM, ils doivent bien tomber, parce que c'est quand même incroyable de s'arrêter pendant 10 ans. Beaucoup d'artistes sont obligés d'enchaîner leur maison et leur maison de disques et leur dit allez hop, Coco, il faut faire un album. Vous aviez ce luxe-là. Vous étiez vraiment.
Moi, ce que je dis à toute personne, c'est tant qu'il y a quelque chose dans le frigidaire, on n'est pas obligé de continuer, quoi. Voilà.
Vous voulez dire que vous avez eu un niveau de vie qui n'était pas celui de Kanye West pendant 10 ans, quoi. En gros, vous n'êtes pas quelqu'un, vous n'êtes pas un flambeur, vous n'êtes pas...
Non, tout allait bien, en fait.
Non, mais on s'interroge, parce que dans le rap, c'est vrai qu'il y a cette image un peu... On l'associe souvent au rap et fric, maintenant, surtout que le rap est la musique qui vend le plus. Ouais. Et donc, moi, je vous imaginais, au volant de votre humeur, même, on ne sait pas votre style, mais enfin, je vous imaginais, disons, une vie un petit peu quand même... je ne sais pas, vivre...
Non mais vous voyez pas là, c'est, vous vous enfoncez, c'est Mathieu.
Non, je m'enfonce parce qu'en fait c'est vrai que plus je le vois, plus je vois qu'il est d'une simplicité tellement désarmante que effectivement il n'aurait pas conduit de Hummer pendant toutes ces années et donc il peut vivre
ça,
juste avec.
Vous. Ça c'est vous.
Ça c'est moi. Ben, je me suis trahi. Voilà, ben, c'est des choses qui arrivent en radio. Je me suis trahi, j'ai trahi mes rêves les plus fous.
Non mais qu'est-ce que je faisais comme tout le monde en fait, comme tous les chanteurs ou comme tous les êtres humains quoi. Ouais, aller chercher les enfants, les voir grandir. Souvent quand je voyais des interviews, les gens ils disaient je n'ai pas vu grandir X ou Y. Voilà, je me suis dit, tiens, je vais prendre un petit moment pour les regarder, aller voir les trucs de classe. Je sais pas, c'est la vie normale, quoi. C'est pas mal, hein.
C'est pas mal.
Ça m'empêchait pas d'aller voir plein de concerts, d'aller dans les studios, d'aller voir les autres, quoi.
Europe 1, 16h, 18h.
L'équipe est sauvage. Europe 1. Michaël Darmon.
Mon invité, Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France.
Le grand rendez-vous européen.
Le gouvernement prépare son plan de déconfinement. Xavier Bertrand appuie là où ça fait mal. Les masques, où sont-ils? Les tests, quand? L'économie sauvée, quoi qu'il en coûte. Mais qui va payer? Xavier Bertrand ou la parole déconfinée?
Le grand rendez-vous européen avec Les Échos et CNews.
À demain, 10h, sur Europe 1.
Le CNPA, Conseil national des professions de l'automobile, ce sont 140 000 entreprises et 500 000 professionnels au service des automobilistes et de votre mobilité au quotidien partout en France.
L'équipe sauvage se poursuit jusqu'à 18h sur Europe 1 avec dans un instant Mathieu Noël et Jérôme Lacroix qui a choisi de nous parler d'une championne de taekwondo.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe sauvage.
Elle a fui son pays parce qu'elle refuse de le représenter aux JO de Tokyo cet été. De quoi s'agit-il? De qui s'agit-il? Jérôme Lacroix nous dit tout. C'était le 14 janvier dernier sur Europe 1 dans l'équipe sauvage avec Mathieu Noël, sa complice Eva Rock et l'invité David Fuenkinos.
Dans la hiérarchie journalistique d'Europe 1, il y en a un qui se pose là, un champion toute catégorie, auteur la semaine dernière d'une perle sublime à l'heure d'annoncer le décès de Jacques Desange, qui avait coiffé de nombreuses actrices, dont Jean Seberg, dont le prénom, c'est vrai, s'écrit J-E-A-N. Mais bon, c'est quand même bien une femme, Gégé.
Jacques Desange, le coiffeur homme d'affaires, apprécié des stars. Il avait, par exemple, coupé les cheveux de Jean Seberg pour un bout de souffle.
Oui, Jean Seberg, Jeannot, comme l'appelait Romain Gary dans l'intimité quand il la prenait dans ses bras. Viens là, Jeannot, fais pas ton prude. Que de souvenirs. Jérôme Lacroix, opportunité vous est donnée de vous ressaisir aujourd'hui. Pour cela, vous nous racontez ce soir une histoire qui démarre où? En Iran. Ah non, les gars. Non, quand même. Mollo sur la musique.
Jérôme, nous sommes le 25 août 2016. Écoutez cette foule plus que conséquente. On est à l'aéroport de Téhéran. Ils sont tous là pour elle, pour Kimia Alizadeh, une gamine de 18 ans. Et elle est alors de retour des Jeux Olympiques au Brésil avec une médaille de bronze obtenue en taekwondo. Elle est alors, et elle est toujours d'ailleurs, la seule femme iranienne médaillée olympique. Le régime très fier saluait alors cette lionne de la terre d'Iran. Je cite Kimia, divine idole, l'idylle est loin. Aujourd'hui, Kimia Alizadeh, elle a eu de la fuite dans les idées. Elle est partie. Oula.
Le petit jeu de mots de Gégé.
Ah oui. Elle est partie. Elle a quitté l'Iran parce qu'elle refuse désormais de représenter son pays aux prochains Jeux Olympiques. Elle a fui pour échapper aux qualifications olympiques. Ces JO qui sont en juillet-août prochain au Japon. Et cette fuite, elle met l'Iran en émoi.
Alors pourquoi son refus? Pourquoi est-ce qu'elle fuit?
Je fais partie des millions de femmes opprimées en Iran avec qui le régime joue depuis des années. Elle s'est longuement exprimée sur un réseau social, sous un texte, sous une photo d'elle en noir et blanc, le visage plongé dans les mains. J'ai accepté de porter tout ce qu'ils voulaient que je porte. Elle fait allusion au port du voile. J'ai répété tout ce qu'ils m'ont dit de dire, mais pour eux, nous ne sommes que des instruments, poursuit Kimia Alizadeh. Elle dénonce l'utilisation de ses performances sportives, l'instrumentalisation par un régime qu'elle juge corrompu et rétrograde sur la condition des femmes. Je ne veux pas monter sur le podium du mensonge et de la corruption, poursuit-elle dans ses écrits.
Elle est gonflée, hein.
Et est-ce qu'on sait où elle est aujourd'hui, Jérôme?
Depuis hier, oui, c'est confirmé. Elle est avec son mari aux Pays-Bas. Elle s'est exilée où elle s'entraîne aux Pays-Bas. Elle rêverait d'être naturalisée néerlandaise pour participer sous les couleurs des Pays-Bas aux JO l'été prochain. Mais c'est pour l'heure peu probable parce que les procédures sont très lourdes. Mais elle pourrait, pourquoi pas, concourir sous la neutre bannière olympique au sein de l'équipe des réfugiés apparue pour la première fois lors des derniers JO brésiliens.
Elle est courageuse, cette femme.
Effectivement, elle fait montre d'un certain courage. David Fuenkinos, vous, que les femmes inspirent tant, les personnages de femmes, on se souvient de Charlotte, est-ce que cette athlète iranienne, ça pourrait vous inspirer en roman?
Là, complètement, ouais. Je trouve que vraiment, il y a beaucoup, faut beaucoup de force intérieure. Puis elle rompt aussi avec son pays, avec sa famille, son entourage. C'est extrêmement douloureux, j'imagine, de
et
faire
répète,
ça.
Elle répète, oui, absolument, qu'elle reste viscéralement attachée à son
bien
pays.
Bien sûr, quand on fait ça, c'est vraiment pas pour nuire au pays, c'est pour essayer d'exprimer une vérité qu'on ressent. Et par contre, c'est vrai que c'est symboliquement très, très fort.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1.
Voici la séquence préférée des étourdis qui, comme moi, ont ce vilain défaut de penser que le repas va se préparer tout seul. Non, il faut mettre un peu la main à la pâte. Pour vous aider, voici Delice in Extremis, votre recette de dernière minute simple et bluffante, délivrée par Olivier Pouls qui tenait à vous présenter ses vœux pour 2020.
Vive la France, vive la République, vive le lièvre à la royale.
Bonjour Olivier Pouls, ce soir j'ai envie de dire oh la belle pomme.
Bonjour Mathieu, bonjour David Fonkinos. Bonjour. Et la belle pomme, vous l'avez devant vous, regardez.
Non, je ne l'ai plus, je suis désolé, elle était trop bonne, elle était fabuleuse.
Un régal.
Bon. Dites-nous vite comment on fait ce truc-là.
C'est une demande express d'Eva qui m'a demandé hier soir. Elle m'a dit, fais-nous tes fameuses pommes au four. Alors, je lui avais donné une version un peu
un
simple.
Message codé. Vous avez mal compris.
Du coup, ça va pas, non?
Mais en fait, j'avais donné à Eva une recette assez simple pour être sûr qu'elle l'a réussi.
Ce qui n'est pas peu dire.
Et voilà. J'ai réussi, c'était très bon.
Alors, c'était les pommes au four au carambar. Ouais. Mais moi, je vous ai un peu amélioré le carambar, parce que le carambar, ouais, bon, c'est quand même un produit un peu issu de l'industrie. Hein. Il y a de l'huile de palme,
pas de ça
tout
nous,
ça, pas de ça chez nous. Donc là, je vous ai fait pommes au four, caramel au beurre salé maison, et surtout saupoudré d'un tout petit mélange noisette-amande qui donne un petit côté un peu praliné, voyez-vous.
Il a l'œil qui brille quand tu racontes.
Croquant. Alors, extrêmement simple, extrêmement simple. Bon, des pommes, ça, jusqu'à présent...
Mais quelles pommes? Quel type
de pommes? Difficulté. Des pommes, en général, moi j'ai pris des galas, par exemple. On prend pas des pommes trop acides, on prend plutôt des pommes à cuire, qui sont des pommes avec une chair qui est plutôt tendre. Je ne les ai même pas épluchées, je les ai simplement
passées sous
l'eau.
Mais c'est bien, ça apporte du croquant, enfin ça apporte une petite
Et puis
texture.
Surtout, ça va permettre de la tenir pendant qu'elle va cuire dans le four, sinon la pomme, elle a un peu tendance à s'écrouler sur elle-même. J'ai enlevé le trognon, alors là, bon, c'est très simple, ah, ça, un petit ustensile.
Je vous en remercie. Voilà,
simple. Et puis, je les ai mis tout simplement dans un plat, j'ai démarré la cuisson et pendant que la cuisson démarrait dans un four à 180 degrés, chaleur tournante.
Vous avez pris l'apéro. Parce que je vous
connais.
On met un truc au four et ensuite on commence l'apéro. Il est 20h et à 22h, le truc est prêt. T'as eu le temps de te mettre 2h. T'arrives, t'es cuit.
Ah bon, alors après 3 bouteilles de cidre et un coup de calva.
Avec modération.
Voilà, et pendant ce temps, j'ai fait mon caramel au beurre salé. C'est enfantin à faire. 3 belles cuillères à soupe de sucre que vous mettez dans une casserole, du sucre blanc. Vous chauffez, vous allez voir, le sucre va fondre et très rapidement, il va acquérir une teinte couleur caramel assez jolie. Alors moi, j'aime bien qu'il n'est pas trop foncé parce qu'il est trop cuit et trop marqué. Dès que vous avez la couleur qui vous convient, une belle noix de beurre demi-sel dedans. Vous faites attention parce que le caramel est très chaud, le beurre, lui, est froid et donc ça peut créer une petite tension,
une réaction chimique,
voilà,
comme entre Anissa Mbida et Sandrine Bonnet,
voilà. Exactement,
vous faites le même effet.
Bien attention, vous mélangez tout ça et puis vous allez recouvrir vos pommes qui vont continuer de cuire pendant un quart d'heure et régulièrement on va venir les arroser pour bien les nourrir. 30-35 minutes de cuisson et je termine par mon petit mélange pralin, voilà, que là j'ai acheté pour le coup et qui va apporter le croquant.
Le croquant gourmand. Voilà. David Fuenquinos, vous avez goûté cette pomme? Vous avez croqué dans la pomme de l'Olivier Pouls?
Je l'ai dévoré.
Vous avez
mangé?
Vraiment,
j'ai une rapidité déconcertante.
Moi aussi.
C'est délicieux.
Délicieux, délicieux. Quand est-ce qu'on va dîner chez vous?
On va prendre une date, il n'y a aucun problème.
Prenons date. Merci Olivier Pouls, qu'on retrouve tous les samedis dans la table des bons vivants de Laurent Mariotte à 11h sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h.